Chapitre 15. Lichen. 66. Trévise avait l'air grotesque dans son costume pressurisé. La seule partie de son individu à rester à l'extérieur, c'était les étuis, pas ceux qu'il s'attachait d'ordinaire à la taille, mais ceux plus imposants qui faisaient partie de la combinaison. Avec soin, il inséra le désintégrateur dans l'étui de droite et le fouet neuronique dans celui de gauche. Cette fois encore, ils étaient rechargés. Et cette fois, songea-t-il résolu, rien ni personne ne les lui ôterait. Joie souriait. Elle lui dit « Allez-vous emporter vos armes même sur une planète dépourvue d'air ou… » « Peu importe, je ne vais pas discuter vos décisions. » « Très bien, » dit Trévise. Et il se retourna pour aider Pellorat à ajuster son casque avant d'arrimer le sien. Ce dernier, qui n'avait jamais encore porté de combinaison spatiale, demanda quelque peu plaintif « Je vais vraiment pouvoir respirer dans ce truc, Golan ?»« Je vous le promets. » Joie le regarda sceller les derniers joints, le bras passé sur l'épaule de Phalum. La jeune solarienne fixait les deux silhouettes en combinaison avec une inquiétude manifeste. Elle tremblait et Joie la tenait serrée, dans une étreinte douce et rassurante. Le sas s'ouvrit et les deux hommes y pénétrèrent, agitant leurs bras boursouflés en signe d'au revoir. L'écoutille se referma. La porte extérieure s'ouvrit et, maladroitement, ils posèrent le pied sur le sol d'un monde mort. C'était l'aube. Le ciel était dégagé, bien entendu, et tirant sur le pourpre, mais le soleil ne s'était pas encore levé. À l'horizon plus clair, là où devait apparaître l'astre du jour, planait une légère brume. « Il fait froid !» dit Pellorat. « Vous avez froid ?» Trévise était surpris. Leur combinaison était parfaitement isolée, et s'il y avait bien un problème de temps à autre, c'était plutôt pour évacuer la chaleur corporelle. « Pas du tout, mais regardez !» Transmise par la radio, sa voix était parfaitement audible à l'oreille de Trévise, tandis qu'il pointait le doigt. Dans la lueur purpurine de l'aube, la façade en ruine de l'édifice duquel ils approchaient était recouverte d'une gangue de givre. Avec une atmosphère ténue, les nuits sont plus froides qu'on ne pourrait le prévoir, et les journées plus chaudes. À cette heure-ci, nous sommes au moment le plus froid de la journée et il devra s'écouler plusieurs heures avant que la chaleur nous empêche de rester au soleil. » Comme si ce dernier mot avait été une incantation cabalistique, le bord de l'astre du jour apparut au-dessus de l'horizon. « Ne le regardez pas !» avertit Trévise sur le ton de la conversation. « Votre visière est réfléchissante et opaque aux ultraviolets, mais ça n'en reste pas moins dangereux. » Il tourna le dos au soleil levant et son ombre démesurément allongée tomba sur la façade. La lumière faisait disparaître le givre sous ses yeux. Durant quelques instants, le mur parut noir d'humidité, puis ce phénomène disparut à son tour. Les bâtiments ont l'air en moins bon état vu de près que depuis le ciel. Ils sont fissurés et tombent en ruine. C'est le résultat des changements de température, je suppose, et des alternances de gel et de fonte des traces d'eau nuit et jour durant peut-être une vingtaine de milliers d'années. « Il y a des lettres gravées dans la pierre au-dessus de l'entrée, » nota Pellorat. « Mais l'érosion les rend difficiles à lire. »«
Pouvez-vous les déchiffrer, Janov ?»«
Ce devait être une institution financière quelconque. » Je déchiffre au moins un terme qui pourrait être « banque ».
Qu'est-ce que c'est que ça?
Un édifice dans lequel des capitaux étaient déposés, retirés, échangés, investis, empruntés, s'il s'agit bien de ce que j'imagine.
Un édifice entier consacré à ça? Sans ordinateur?
Sans ordinateur pour se charger du tout.
Trévise haussa les épaules. Ces détails d'histoire antique ne l'inspiraient pas. Ils avancèrent avec une hâte croissante, passant de moins en moins de temps à chaque édifice. Le silence, l'absence de vie, était totalement déprimant. Ce lent effondrement, étalé sur des millénaires dont ils exploraient les traces en intrus,
faisait des lieux un squelette de cité d'où n'aurait subsisté rien d'autre que les eaux. Ils étaient tout au nord de la zone tempérée, mais Trévis avait l'impression de sentir la chaleur du soleil dans son dos. À 100 mètres de lui, sur la droite, Pellerat lança brusquement « Regardez ça !» Trévis en eut les oreilles qui carillonnèrent. « Inutile de crier comme ça, Janoff. J'entends sans problème vos murmures si loin que vous puissiez vous trouver. De quoi s'agit-il ?» Baissant aussitôt le ton, Pellerat expliqua. « Ce bâtiment est la maison des mondes. Du moins, c'est ainsi que je crois déchiffrer l'inscription. » Trévis le rejoignit. Devant eux s'élevait un édifice de 2 étages, avec une toiture irrégulièrement découpée, d'où saillaient de larges fragments de pierre, comme si quelque objet sculpté s'y était jadis dressé avant de s'effondrer. « Vous êtes certain ?» demanda Trévis. « On n'a qu'à entrer pour vérifier ?» Ils gravirent 5 marches, larges et basses, et franchirent une gigantesque esplanade. Dans l'air raréfié, le pas de leurs semelles métalliques provoquait une vibration murmurante plutôt qu'un bruit. « Je vois ce que vous voulez dire par allure imposante, aspect inutile et dispendieux, » marmonna Trévis. Ils pénétrèrent dans un hall vaste et haut. Le soleil qui entrait par les hautes fenêtres illuminait l'intérieur trop violemment là où frappaient ses rayons, tout en laissant néanmoins l'obscurité régner ailleurs. L'atmosphère raréfiée diffusait très peu la lumière. Au centre se dressait un personnage humain plus grand que nature, apparemment sculpté dans la pierre synthétique. Un bras avait chu, l'autre était fissuré à l'épaule, et Trévis eut l'impression qu'une tape un peu sèche aurait suffi à le rompre également. Il recula, comme si, en s'approchant trop, il risquait d'être tenté par un aussi inqualifiable acte de vandalisme. « Je me demande bien qui c'est, » dit Trévis. « Aucune inscription. Je suppose que ceux qui ont érigé la statue de ce monsieur jugeaient sa renommée si évidente qu'elle se passait d'identification. Mais à présent, se sentant en danger de devenir philosophe, il reporta son attention ailleurs. Pellerat levait les yeux et le regard de Trévis suivit l'angle que décrivait la tête de son compagnon. Il y avait des marques gravées sur le mur, indéchiffrables pour Trévis. « Incroyable !» dit Pellerat. « Elles ont peut-être 20 000 ans, et ici, à l'intérieur, abritées sans doute du soleil et de l'humidité, elles sont encore lisibles. Pas pour moi. L'écriture est ancienne, et qui plus est, ornementée. Bon, voyons voir. 7, 1, 2... Sa voix s'éteignit dans un marmottement, puis il reprit distinctement. « C'est une liste de 50 noms, et comme on suppose qu'il y a eu 50 mondes spatiaux et que cet édifice est la maison des mondes, j'en déduis que ces noms sont ceux des 50 planètes, sans doute inscrits dans l'ordre de leur colonisation. Aurora est la première, et Solaria vient en dernier. Si vous voulez bien noter, il y a 7 colonnes, avec 7 noms dans les 6 premières et 8 dans la dernière. C'est comme s'ils avaient prévu de composer un tableau de 7 sur 7, puis ajouter Solaria après coup. J'inclinerais à croire, mon ami, que cette liste remonte à la période immédiatement antérieure à la terraformation et au peuplement de Solaria.
Et quelle est la planète sur laquelle nous nous trouvons? Pouvez-vous le dire?
Vous aurez noté que le 5e nom dans la 3e colonne, le 19e de la liste, est inscrit en caractère légèrement plus grand que les autres. Les auteurs semblent avoir eu assez d'égocentrisme pour s'autoriser un certain chauvinisme. D'autre part,
quel est ce nom?
Pour ce que j'en déchiffre, il s'agirait de Melpomenia, un nom qui m'est totalement étranger.
Pourrait-il correspondre à la Terre?
Pellerat secoua vigoureusement la tête, mais sous le casque, sa mimique passa inaperçue.
Des 12aines de mots sont employés pour nommer la Terre dans les vieilles légendes. Gaïa est l'un d'eux, comme vous le savez, de même que Terra, Erda et ainsi de suite. Toujours des mots brefs. Je ne connais pas un seul terme long utilisé pour la nommer, ni aucun qui pourrait ressembler à un quelconque diminutif de Melpomenia.
Alors nous sommes sur Melpomenia, et ce n'est pas la Terre.
Oui. Et d'autre part, comme je commençais à vous le dire à l'instant, une indication encore meilleure que la plus grande taille des lettres nous est fournie par les 0,0,0, et l'on peut imaginer que de telles coordonnées sont toujours rapportées à celles de la planète d'origine.
Des coordonnées ? Trévise était abasourdi. Cette liste fournit également des coordonnées ?
Elle donne 3 chiffres pour chaque planète, et je présume que ce sont des coordonnées. Vous avez une autre idée ?
Trévise ne répondit pas. Il ouvrit un petit compartiment dans la portion de combinaison qui recouvrait sa cuisse droite et sortit un appareil compact qu'un câble reliait au compartiment. Il le porta au niveau de l'œil et visa soigneusement l'inscription sur le mur, ses doigts gantés rendant difficile une manœuvre qui, d'ordinaire, aurait pris quelques instants.
« Une caméra ?»
crut bon de demander Pellerat. « Qui transmet directement l'image à l'ordinateur de bord ?» Trévise prit plusieurs clichés sous différents angles, puis dit «
Attendez, il faut que je sois plus haut. Aidez-moi, Janov. »
Pellerat mit les mains en étrier, mais Trévise secoua la tête.
« Vous ne supporterez pas mon poids. Mettez-vous plutôt à 4 pattes. »
Pellerat s'exécuta, laborieusement. Et tout aussi laborieusement, Trévise, après avoir rangé de nouveau la caméra, monta sur le dos de Pellerat, et de là sur le piédestal de la statue. Délicatement, il essaya d'ébranler celle-ci pour juger de sa solidité, puis posa le pied sur un genou plié qui lui servit d'appui pour se propulser vers le haut et saisir l'épaule dépourvue de bras. Coinçant alors les orteils sur une aspérité à hauteur de la poitrine, il se hissa et finalement, après moult grognements, parvint à se jucher à califourchon sur l'épaule. Pour ceux qui, morts depuis longtemps, avaient jadis révéré la statue et ce qu'elle représentait, un tel comportement aurait paru blasphématoire, et Trévise en était conscient, au point qu'il essaya de s'asseoir du bout des fesses.
« Vous allez tomber et vous faire mal !»
lui lança Pellerat, anxieux.
« Je ne vais ni tomber, ni me faire mal. Mais vous, vous risquez de me rendre sourd. »
Trévise prit son appareil et visa de nouveau. Il prit encore plusieurs clichés, puis rangea la caméra vidéo avant de se laisser glisser précautionneusement jusqu'à ce que ses pieds touchent le socle. De là, il sauta à terre et sans doute les vibrations du contact avec le sol provoquèrent le choc décisif, car le bras encore intact se détacha pour tomber en un petit tas de débris au pied de la statue. Sa chute n'avait pratiquement pas fait de bruit. Trévise se figea. Son premier réflexe avait été de trouver un coin où se cacher avant d'être pincé par le gardien. « Étonnant, songea-t-il par la suite, comme on a tôt fait de revivre sa propre enfance dans une situation pareille, quand on a par accident brisé quelque objet qui semble important. La sensation n'avait duré qu'un instant, mais elle n'en était pas moins vive. » La voix de Pellerat était caverneuse, comme il sied à qui est le témoin, pour ne pas dire l'instigateur d'un acte de vandalisme, mais il parvint à trouver des paroles réconfortantes.
« C'est... ça va, Golan. De toute façon, il était sur le point de dégringoler. »
Il se dirigea vers les débris répandus sur le socle et le sol, comme pour mieux asseoir sa démonstration. Tendit le bras pour saisir l'un des plus gros fragments et soudain s'exclama
« Golan, venez voir !»
Trévise approcha, et Pellerat, désignant un éclat de pierre qui avait manifestement constitué une portion du bras brisé, lui demanda
« Qu'est-ce que c'est que ça ?»
Trévise écarquilla les yeux. On voyait une tache moussue, d'un vert vif. Trévise la frotta doucement de son doigt ganté. Elle se détacha sans problème. « Ça ressemble énormément à du lichen. »«
La vie non intelligente que vous évoquiez ?»«
Je ne sais pas jusqu'à quel point. »« J'imagine que Joie soutiendrait que cette forme de vie également est consciente, mais elle prétendrait que cette pierre l'est aussi. »«
Croyez-vous que c'est cette mousse qui attaque la pierre?
Je ne serais pas surpris qu'elle y contribue. La planète est très éclairée et possède une certaine quantité d'eau. La moitié de l'atmosphère est formée de vapeurs d'eau. Le reste est composé d'azote et de gaz rares. Rien qu'une trace de gaz carbonique, ce qui tendrait à indiquer l'absence de vie végétale. Mais il se pourrait que le taux de gaz carbonique soit faible parce qu'il est presque intégralement piégé dans la croûte rocheuse. Et si cette pierre contient une certaine proportion de carbonate, cette mousse le décompose en sécrétant de l'acide, ce qui lui permet de consommer le dioxyde de carbone généré. Nous avons peut-être là l'ultime espèce dominante sur cette planète.
Fascinant.
Indubitablement. Mais sans plus. La découverte des coordonnées des mondes spatiaux est encore plus intéressante. Mais n'oublions pas que ce sont les coordonnées de la planète Terre que nous cherchons. Si elles ne se trouvent pas ici, elles sont peut-être ailleurs dans ce bâtiment, ou dans un autre. Venez, Janov.
Mais vous savez... commença Pellorat.
Non, 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 dit Trévise impatient. On causera plus tard. Voyons d'abord ce que ce bâtiment peut éventuellement nous offrir encore. Il fait déjà plus chaud.
Il consultait le petit thermomètre sur le dos de son gant gauche.
Venez, Janov.
Ils parcoururent les salles, marchant avec un maximum de précautions, non pas à cause du bruit ou par crainte de déranger qui que ce fût, mais parce qu'ils ne voulaient pas, par les vibrations de leurs pas, provoquer de nouveaux dégâts. Ils soulevaient de la poussière qui s'envolait à faible hauteur avant de redescendre très vite dans l'air raréfié, laissant derrière eux l'empreinte de leurs pas. Parfois, dans quelques recoins sombres, l'un ou l'autre indiquait en silence d'autres taches de mousse qui se développaient. Il semblait tirer un mince réconfort de cette présence de la vie, si primitive fut-elle. Il s'agissait d'une chose qui allégeait l'impression mortelle, suffocante, de parcourir un monde mort, surtout quand l'omniprésence de constructions et d'objets manufacturés soulignait combien la vie y avait été développée jadis. À un moment donné, Pellorat remarqua
« Je crois bien que nous sommes dans une bibliothèque. »
Trévise parcourut les lieux d'un regard curieux. Il y avait des rayonnages, et un examen plus attentif lui révéla ce qu'un coup d'œil rapide lui avait fait prendre pour des ornementations et qui ressemblait fort à des vidéolivres. Maladroitement, il saisit l'un d'eux. Ils étaient épais et mal commodes, et bientôt Trévise se rendit compte que c'était de simples boîtes. Il tâtonna de ses doigts boudinés pour en ouvrir une et découvrit plusieurs disques à l'intérieur. Ils étaient épais également, et semblait fragile, même s'il préféra s'abstenir de le vérifier.
Incroyablement primitif.
Ça remonte à 20 000 ans,
remarqua Pellorat d'un ton d'excuse, comme s'il défendait les anciens Melpoméniens contre cette accusation de retard technologique. Trévise désigna la tranche du boîtier où s'étalaient les fines volutes du lettrage ornementé utilisé par les anciens.
C'est le titre ?
Que dit-il ? Pellorat l'étudia.
Je ne suis pas vraiment certain, mon ami. Je crois que l'un des termes renvoie à la vie microscopique. C'est un mot pour micro-organisme, peut-être. J'ai bien peur que ce ne soit des termes de technique microbiologique que je serais bien en peine de comprendre, même en galactique classique.
Sans doute, observa Trévise morose.
Et tout aussi probablement, nous ne serions pas plus avancés si nous les comprenions. Les microbes ne nous intéressent pas. Faites-moi plaisir, Janov. Jetez un œil sur certains de ces bouquins et voyez si vous ne dénichez pas un titre intéressant. Pendant ce temps, je vais examiner de plus près ces visionneuses.
Des visionneuses ?
S'étonna Pellorat. C'étaient des objets cubiques, trapus, surmontés d'un écran incliné et d'une extension incurvée, peut-être un accoudoir, ou bien le logement pour poser un électrocalpin, à supposer qu'un tel appareil eût jamais été connu sur Melpoménia.
Si nous sommes bien dans une bibliothèque, il devait exister des visionneuses sous une forme ou une autre, et cet appareil semble convenir à la fonction.
Il épousta l'écran d'une main maladroite, et fut soulagé de constater que, quelle qu'en fût la composition, il ne s'effritait pas sous ses doigts. Il manipula doucement les commandes, l'une après l'autre. Rien ne se produisit. Il essaya une autre visionneuse, une autre encore, avec les mêmes résultats négatifs. Il n'était pas surpris. Même si les appareils pouvaient rester en état de marche au bout de 20 millénaires dans une atmosphère raréfiée, même s'ils résistaient à la vapeur d'eau, il demeurait toutefois la question de leur alimentation. Toute forme de stockage d'énergie était sujette aux fuites, quoi qu'on fît pour les arrêter. C'était encore un aspect de l'irrésistible, l'omniprésente seconde loi de la thermodynamique. Pellerat était derrière lui.
« Golan ?»«
Oui ?»«
J'ai trouvé un vidéolivre. »«
Quel genre ?»«
Je crois que c'est une histoire du vol spatial. »«
Parfait. »
Mais ça nous fait une belle jambe si je ne parviens pas à mettre en route cette visionneuse.
Il en serrait les poings de frustration.
On pourrait ramener le disque à bord.
Je ne saurais pas l'adapter à notre lecteur. Il n'entrerait pas dans le tiroir et les systèmes d'analyse sont certainement incompatibles.
Mais tout ceci est-il bien nécessaire, Golan, si nous...
C'est certainement nécessaire, Janov. Non, ne m'interrompez pas. J'essaie de voir comment faire. Je pourrais tenter d'alimenter l'appareil en énergie. C'est peut-être tout ce qu'il lui faut.
Et où la trouverez-vous?
Eh bien...
Trévise sortit ses armes, les considéra un bref instant, puis remit le désintégrateur dans son étui. Il ouvrit en revanche le fouet neuronique pour en examiner le niveau de charge. Il était au maximum.
Trévise s'accroupit par terre et tâtonna derrière la visionneuse. Il persistait à considérer comme tel l'appareil, essayant de la tirer en avant. Elle bougea un petit peu, et il étudia ce que la manœuvre lui avait permis de découvrir. L'un de ses câbles devait être chargé de l'alimentation, et sans doute devait-il s'agir de celui qui sortait du mur. Il n'y avait ni prise ni connecteur apparent. Comment appréhender une culture antique et étrangère où les objets les plus simples, les plus évidents, deviennent méconnaissables. Il tira sur le câble, doucement d'abord, puis plus fort. Il le tourna d'un côté, puis de l'autre. Il pressa le mur au voisinage du câble, puis le câble au voisinage du mur. Il reporta son attention, dans la mesure du possible, vers la face arrière à demi cachée de l'appareil, et, là non plus, aucune de ses manipulations n'aboutit. Il posa la main par terre pour se relever. Et alors qu'il se redressait, le câble vint avec lui. Qu'avait-il fait pour le libérer? Il n'en avait pas la moindre idée. Il ne semblait ni rompu ni arraché. L'extrémité paraissait coupée nette, tout comme était lisse la partie du mur où il était précédemment raccordé.
Pellerat intervint doucement.
« Golan, puis-je ?»
Trévise agita le bras de manière péremptoire. « Pas maintenant, Janov. « Je vous en prie. » Il remarqua soudain la croûte verte qui recouvrait les plis de son gant gauche. Il devait avoir ramassé, puis écrasé, un peu de lichen en tâtonnant derrière la machine. Son gant était légèrement humide, mais il sécha sous ses yeux et la tache verte vira au brun. Il consacra de nouveau son attention au câble, examinant avec soin l'embout. Pas de doute. Il y avait bien deux petits orifices. Là, des fils pouvaient y pénétrer. Il s'assit de nouveau par terre et ouvrit le compartiment des batteries de son fouet neuronique. Avec précaution, il dépolarisa l'un des câbles et le dégagea. Puis, d'un geste lent et délicat, il l'inséra dans le trou jusqu'à ce qu'il vienne en buter. Lorsqu'il essaya doucement de le retirer, il ne bougea pas, comme s'il avait été serti. Il contint le réflexe immédiat qui était de le libérer de force. Au contraire, il dépolarisa l'autre câble et l'introduisit dans la seconde ouverture. On pouvait imaginer qu'il allait ainsi refermer le circuit et alimenter en électricité la visionneuse.
« Janov, dit-il, vous avez tripoté des vidéolivres de toutes sortes. Tâchez de voir si vous pouvez m'insérer ce bouquin dans l'appareil. »
Est-il vraiment nécessaire?
Je vous en prie, Janov. Vous n'arrêtez pas de poser des questions inutiles. Le temps nous est compté. Je n'ai pas envie de devoir attendre une partie de la nuit que la température soit assez redescendue pour nous permettre de rentrer.
Ça devrait entrer comme ça, dit Janov. Mais
bien. S'il s'agit d'une histoire de la navigation spatiale, elle doit commencer avec la Terre, puisque c'est sur Terre qu'on l'a inventée.
Voyons voir à présent si ce machin fonctionne.
Avec un luxe inutile de précaution, Pellerad glissa le vidéolivre dans le tiroir manifestement idoine, puis entreprit d'examiner les inscriptions portées sur les commandes, en quête d'une indication quelconque. En attendant, Trévise parlait à voix basse, en partie pour soulager sa propre tension.
« Je suppose qu'il doit également exister des robots sur ce monde, ici et là, dans un état de conservation raisonnable, selon toute apparence, voire rutilant dans ce vide quasi complet. Le seul problème est que leurs batteries sont sans doute épuisées depuis longtemps, et même si on les rechargeait, dans quel état est leur cerveau ? Les leviers et les rouages peuvent traverser les siècles, mais quid des microcontacts et autres bidules subatomiques qu'ils ont dans la cervelle ? Tous ces machins ont dû se détériorer. Et même si ce n'est pas le cas, que pourrait-il savoir de la Terre ? Que pourrait-il...
« La visionneuse fonctionne, mon ami !»
l'interrompit Pellerad.
« Venez voir !»
Dans la pénombre, l'écran du lecteur s'était mis à clignoter. La lueur était faible, mais Trévise n'eut qu'à monter légèrement la puissance sur son fouet neuronique pour que la lumière augmente. L'atmosphère raréfiée autour d'eux laissait les zones extérieures aux rayons de soleil dans une obscurité relative, de sorte que la salle était plongée dans l'ombre, renforçant la brillance de l'écran par contraste. Celui-ci continuait de clignoter, traversé parfois par des ombres.
« Il a besoin d'une mise au point, » observa Trévise.
« Je sais, mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire mieux. Le support a dû se détériorer. »
Les ombres défilaient plus rapidement maintenant, entrecoupées périodiquement par une vague caricature de texte. Puis, momentanément, l'image devenait nette avant de s'évanouir à nouveau.
« Revenez en arrière et arrêtez l'image, Janov. »
Pellerad essayait déjà. Il passa en défilement arrière, puis avant, retrouva la séquence et fit un arrêt sur image. Avec avidité, Trévise chercha à lire le texte, puis, dépité, se tourna vers Pellerad.
« Vous pouvez me déchiffrer ça, Janov ?»«
Pas intégralement, »
avoua celui-ci en louchant sur l'écran.
« Je peux au moins vous dire que cela parle d'Aurora. Je crois que c'est en rapport avec la première expédition hyperspatiale, la diaspora initiale, » dit le texte.
Il remit en défilement, et l'image s'assombrit à nouveau et se brouilla. Finalement, il conclut,
« Tous les éléments que j'ai pu déchiffrer semblent uniquement traiter des mondes spatiaux, Golan. Je n'ai rien pu trouver concernant la Terre. »
« Non, évidemment, »
dit Trévise amer.
« Tout a été effacé, comme c'était déjà le cas sur Trantor. Éteignez cet appareil. »
« Mais ça n'a pas d'importance, »
commença Pellerad tout en éteignant la machine.
« Parce qu'on pourra toujours essayer d'autres bibliothèques. Les documents y seront effacés là aussi, partout. Savez-vous ?»
Il avait tourné la tête vers Pellerad pour s'adresser à lui. Et voilà qu'il le considérait avec un mélange d'horreur et de répulsion.
« Des dents. Qu'est-ce qu'elle a, votre visière ?